Bienvenue chez vous sur France Bleu Périgord, Marie-Dominique Privé.
Et je vous promets qu'à la fin de cette émission, vous saurez tout sur la belle châtaigne du Périgord, puisque notre invitée aujourd'hui, c'est Isabelle de Rosambeau, de la propriété Le Domaine de Rapatel à Villefranche du Périgord. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Ce domaine de Rapatel, c'est quoi son histoire ?
Il est ancien, le domaine de Rapatel. On a repris l'exploitation qui était déjà existante aux anciens propriétaires en 2018, fin 2018. Et donc, nous exerçons depuis vaillamment et avec cœur et passion notre travail de paysan transformateur.
À Villefranche-du-Périgord, reconnu pour la châtaigne.
Oui, tout à fait. Le village est labellisé site remarquable du goût pour la châtaigne.
Combien d'hectares aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, en production, toujours 6,5.
Ouais.
3 hectares de plus plantés.
Ouais.
Et une exploitation au total qui fait 34 hectares.
Depuis toujours, Isabelle, la châtaigne a nourri les hommes. Et c'est pas pour rien qu'on l'appelait aussi l'arbre à pain.
Oui, tout à fait. Ça a permis d'éviter les famines dans notre région. Les personnes conservaient précieusement en fait les châtaignes, les faisaient sécher et pouvaient manger du coup du pain ou de la mique avec la farine de châtaigne pendant les périodes difficiles.
Ensuite, elle a un petit peu disparu des circuits.
Oui, un regain d'intérêt est revenu là il y a une quinzaine d'années, 15-20 ans. La châtaigne est un produit qui est difficile à travailler parce qu'il faut la récolter et quand on la récolte, ça pique, on se pique les doigts et ensuite il faut pouvoir la peler. Et là, c'est là où ça devient compliqué parce qu'il faut être très patient. Alors nous, évidemment, on a des outils pour ça. Et on invite les gens, d'ailleurs, au moment de la récolte, pour qu'ils viennent peler leur propre châtaigne à Rapatel. Mon mari donne une demi-journée par semaine au moment de la récolte pour que les gens puissent venir peler leur châtaigne. Donc, une fois qu'on a pelé la châtaigne, on peut en faire plein de choses. Et là, c'est notre travail aujourd'hui. On essaye de faire redécouvrir, en fait, ce fruit qui a été un petit peu oublié en le proposant à des sauces différentes.
Et on aura l'occasion d'en parler de cette transformation. Une châtaigne qui est sans gluten ?
Oui, un fruit qui est 100% sans gluten naturellement. Donc effectivement, pour les personnes qui sont soit cœliaques ou qui sont juste intolérantes au gluten, ça peut être un bon compromis aussi pour avoir une alimentation plus variée.
Avec des variétés locales ?
Ah, évidemment.
Quelle variété vous avez chez vous ?
Alors, celle qui est en production aujourd'hui, c'est la Marigoule.
Ouais,
donc, c'était la variété phare de l'époque où on a réinstauré un petit peu les vergers. On a replanté des vergers il y a une quarantaine d'années.
Ouais.
Et puis, là, nous axons sur la Bournette, qui est une variété qui
la
est
Bournette.
Beaucoup plus sucrée. Et naturellement sucrée et plus goûteuse, ce qui va nous permettre d'avoir une farine d'encore meilleure qualité à proposer à nos clients.
D'accord. Elle se différencie comment par rapport à la Marigoule ?
Elle est un peu plus rouge, la peau est plus rouge. Et par contre, on a un rendement qui est moins important. On va pas chercher à d'avoir des quantités astronomiques de châtaigne, mais des belles petites châtaignes bonnes.
Le domaine de Rapatel a fait également le choix de travailler en bio, en agriculture bio.
Oui, tout à fait. Donc ça, pour nous, c'était...
Dès le départ.
C'était obligatoire. On ne pouvait pas reprendre une exploitation qui n'était pas en bio. Pour nous, c'est important de pouvoir transmettre un sol correct aux générations futures. Et ça fait partie, le bio fait partie pour nous de ces obligations-là.
Qu'est-ce que ça nécessite justement comme sol, le châtaignier ?
Alors le châtaignier, malgré ce qu'on pourrait penser, c'est pas un arbre qui est solide et qui va s'adapter à tous les milieux. Il est un petit peu princier. Il va falloir pas trop de calcaire, pas trop d'argile, qu'un sol soit plutôt bien drainé. Il va falloir lui apporter aussi de l'eau si on veut avoir des fruits. Mais là, par contre, notre verger, nous, il est pas irrigué. On n'a pas eu les moyens d'installer l'irrigation partout et ils ont été habitués à se débrouiller par eux-mêmes. Donc maintenant, on fait avec Dame Nature et on espère qu'elle nous donnera un peu de pluie.
Et on va en parler justement de ces changements climatiques dans quelques instants. J'aime beaucoup le terme princier, un châtaignier princier.
Oui.
C'est très joliment dit.
Le châtaignier est un prince et la châtaigne est une princesse.
Est une princesse. Traditionnelle compagne de la dinde de Noël, la châtaigne cache sous sa rude écorce une chair fondante, riche en minéraux, idéale pour rester en forme et pour être consommée finalement toute l'année. Et on en parle avec vous, Isabelle de Rosambeau du domaine de Rapatel à Villefranche du Périgord. Alors, les producteurs de châtaignes font face en ce moment à plusieurs défis, notamment ces fameux changements climatiques qui affectent certainement les cycles de production. Est-ce que vous le constatez ?
Oui, tout à fait. Ben là, typiquement, on a gelé. Comme les collègues de la vigne la semaine dernière. Donc la châtaigne, par contre, l'arbre en fait a toujours un plan B. Donc il y a un petit bourgeon qui normalement, si ça se passe bien, ne va pas se redévelopper. Si par contre le premier bourgeon gèle, tout de suite le deuxième bourgeon va prendre le relais. Donc là maintenant, il faut juste espérer qu'il y ait plus de gel.
Il faut plus qu'il y ait de gel.
Voilà. Et j'ai la chance d'avoir entendu les petits grillons, donc je me dis que le gel est peut-être loin de nous maintenant.
Et ça, c'est un facteur. Hein. Quand on les entend chanter, ça veut dire que c'est bon.
Oui, oui, oui. Généralement les grillons et puis aussi les oiseaux oiseaux migrateurs qui arrivent là pour la bonne saison. Donc là. Quand ils arrivent et qu'il y a les petits grillons, normalement, on va échapper au gelé.
Alors, il y a eu le gel, il y a énormément d'eau aussi.
Oui.
Alors, est-ce que ça affecte les arbres ?
Complètement. On a des arbres qui tombent, nous, carrément. Hein. Ouais. Le système racinaire, voilà. Ouais. Ça se déracine et ça tombe. Donc là, on en a perdu cet hiver 5. Mm-hmm. 5 arbres. Et ensuite, on va avoir peut-être aussi des problèmes de champignons. Donc si ça reste, voilà, un peu le même principe que l'oïdium, hein, s'il commence à faire chaud mais que ça reste très humide, on pourrait avoir effectivement des difficultés aussi là-dessus.
Et comment il réagit face à la sécheresse ?
Alors, l'arbre va pouvoir se mettre en sécurité aussi. Donc il va décider à un moment donné qu'il a des priorités à gérer, c'est survivre. Donc il va peut-être couper, ça je l'ai vu il y a 2 ans, couper carrément l'irrigation donc à l'intérieur de la sève d'une partie de l'arbre. Il y a des moitiés d'arbres entières qui se mettent à mourir en fait. Donc les feuilles tombent, elles fanent et elles tombent au profit d'une autre partie de l'arbre et de quelques fruits. Et en été, très souvent, au mois d'août, on va pouvoir aussi voir certains petits fruits qui vont tomber, donc les pelons de châtaigne qui vont tomber au sol. Et là, pareil, pour essayer de pérenniser une partie de la récolte et une partie des fruits.
Mais d'où la nécessité aussi de replanter ?
Oui, oui, oui. Pour préserver, en fait, avoir une quantité de récolte qui sera suffisante, préserver aussi les vergers, puisqu'on a le verger qui est vieillissant, et il faut entre 8 et 10 ans pour pouvoir avoir les premières récoltes de châtaigne sur un jeune arbre.
Vous avez fait le choix, Isabelle, avec votre mari Tanguy, de transformer ce produit en plus d'une quinzaine de produits différents. Ça, c'était aussi une évidence pour vous, de vous lancer là-dedans ?
Oui, complètement. Et un choix pour faire goûter en fait et découvrir la châtaigne aux gens. On a trop souvent l'habitude de la laisser à Noël avec une volaille ou alors dans un pot de crème de marron pour éventuellement la bûche. Mais non, la châtaigne, ça se consomme toute l'année.
Et la gamme de produits, elle est assez vaste.
Oui, alors on fait, comme je vous l'avais indiqué, on fait de la farine de châtaigne. Donc on va partager notre récolte en 2 parties.
Ouais.
Une partie qu'on va faire sécher. Donc là, on va mettre, pour faire sécher 1 tonne de châtaigne à peu près, on va mettre 7 à 10 jours.
Ouais.
Et l'autre partie qu'on va mettre au congélateur pour pouvoir faire les crèmes et les confitures. Et avec cette farine de châtaigne, on va faire des pâtes, par exemple, qu'on va pouvoir manger toute l'année.
De nombreux produits gourmands faits à base de châtaigne. Voilà ce que vous propose le domaine de Rapatel. Et c'est Isabelle de Rosambeau qui est là avec nous en studio jusqu'à 11h pour nous présenter ces bons produits. Alors, vous allez faire, bien sûr, des biscuits avec cette farine, des pâtes, on en a parlé. De la farine qu'on peut découvrir aussi dans votre boutique, mais vous êtes allé jusqu'à faire de la bière et du vin avec de la châtaigne.
Oui, tout à fait. Donc la bière, c'est une bière à base de farine de châtaigne. On utilise la partie de châtaigne qui n'a pas été correctement moulue par notre moulin.
D'accord.
Et on l'incorpore à notre brassin avec les autres céréales. Donc là, on a lancé la bière l'année dernière et cette année, on pourra même la proposer pour nos happy hour le mercredi soir directement
au domaine. Voilà. Directement. Quel goût elle a ? Est-ce qu'on sent bien la châtaigne ?
On va retrouver le goût de la farine de châtaigne.
Oui.
Donc si vous goûtez un petit peu de farine de châtaigne naturellement, vous allez, en buvant après la bière, vous allez tout de suite redécouvrir le goût de la farine.
Et vous allez plus loin en proposant également du vin. Oui. Apéritif à la châtaigne.
Alors l'objectif, en fait, c'est pas de travailler exclusivement avec le fruit, parce que l'arbre est capable de nous fournir en saveur, mais dans son entièreté. Et donc, il faut travailler avec l'entièreté de l'arbre. Donc, on a travaillé aussi avec la feuille du châtaignier. On a proposé du coup le vin apéritif que l'on travaille avec le domaine Chante-l'Oiseau à Campagnac-les-Quercy, voilà, qui nous fournit son cépage Sauvignon Blanc. Et on incorpore ensuite nos feuilles de châtaigne.
Alors bien sûr, le traditionnel crème de marron, des confitures de velouté également aussi que vous proposez, des soupes.
Oui. Alors, la petite nouveauté, c'est le velouté Kumara avec de la patate douce. Voilà. Et ensuite, on a travaillé aussi, je vous parlais de l'entièreté de l'arbre, faut travailler aussi avec la fleur, faut pas l'oublier, cette jolie fleur. Donc là, on fait du sirop. Et on a sorti l'année dernière de la gelée de fleurs de châtaignier qui va se marier admirablement avec un fromage, une tome de brebis ou alors un petit morceau de foie gras, ma foi, pourquoi
pas. Tout simplement une bonne tranche de pain de campagne.
Ah, ma fille adore comme ça.
Ah, mais moi aussi, hein, j'imagine. On veut en savoir plus. Je pense qu'il y a un rendez-vous qu'il ne faudra pas manquer, ce sera le 18 mai prochain.
Oui, alors nous avons eu la joie d'accueillir Ara Patel, France TV, oui. Et qui nous a proposé un très joli reportage qui va passer donc du coup le 18 mai sur France 3.
Ça s'appelle Les Goûts des Rencontres, c'est
voilà,
ça?
Voilà, Le Goût des Rencontres.
Présenté par Justine
oui.
Pilozo, qu'on avait reçu d'ailleurs ici il y a 2 ans, je crois, à l'occasion du Festival du Livre Gourmand.
Et Alessandra.
Et Alessandra, exactement. Chef. Et voilà. Le chef qui est là, exactement. Donc, ce sera un beau reportage à découvrir, donc sur France 3. En attendant, comment fait-on pour découvrir vos produits, le domaine de Ara Patel? Il y a la boutique sur place.
Oui, les boutiques de producteurs aussi. Hein, il y en a plusieurs dans toute la Dordogne. Et puis, les salons aussi. Ouais. On est amené à faire des salons. Et puis, bien sûr, cet été, dans les marchés gourmands pour découvrir nos tiramisu à la crème de marron, évidemment.
Comment on fait pour gérer son agenda, Isabelle? Parce que j'ai l'impression que vous êtes partout, par moi et par vous.
On court.
Vous courez tout le temps.
Oui, oui, oui. Et puis là, ben, j'en profite aussi. Vous avez, on a parlé des conditions climatiques, mais malheureusement, les conditions aussi financières sont compliquées en ce moment avec tout ce qui se passe autour de nous et malheureusement nous impactent, même si on travaille de manière très locale. On a dû procéder au licenciement économique de nos 2 salariés. Mm-hmm. Donc maintenant, on est vraiment plus que tous les 2 sur l'exploitation et c'est vrai qu'on va beaucoup courir.
L'Europe vue d'ici sur France Bleu Périgord.
À l'occasion des élections européennes du 9 juin prochain, nous accueillons toute cette semaine de jeunes journalistes en formation à l'ESJ Pro de Montpellier. Ils vous proposent des reportages et interviews sur la place de l'Europe en Dordogne et nous accueillons Élodie Bourriaud.
Bonjour à tous. Eh bien, bonjour Isabelle de Rosambeau. Alors, première question, c'était est-ce que j'aurais aimé avoir votre éclairage sur le marché de la châtaigne en France. Comment se porte-t-il? Parce que d'après mes recherches, la France exporte environ 3000 tonnes vers l'Europe, quand l'Italie en exporte 50 000. Du coup, quelle est la France produit de moins en moins de châtaignes ou...
Alors, on essaye de refaire vivre, en fait, la filière. Si vous parlez uniquement de la châtaigne du Périgord, effectivement, on est tout petit par rapport au bassin de l'Ardèche, par exemple, ou encore de la Corse. Mais tout cumulé, on est un petit peu plus fort et on va exporter quand même pas mal de produits. La difficulté qu'on va rencontrer, ça va être aussi la saisonnalité. Donc, on a la possibilité, enfin, les industriels qui vont acheter la quasi-totalité de ce qui est produit par les paysans français. Hein. On est très peu en transformation directe. C'est vraiment des industriels qui vont acheter la châtaigne. On a la désaisonnalisation aussi avec d'autres pays du monde entier. Donc beaucoup, le Chili, l'Amérique du Sud, qui vont aussi être pourvoyeurs de châtaigne au moment où nous ne sommes pas en période de récolte.
D'accord, donc ça s'équilibre un peu sur l'année en fait.
Voilà, les industriels ont la possibilité du coup d'avoir de la châtaigne fraîche quasiment toute l'année.
D'accord. Alors deuxième question, comment faire face à cette concurrence quand même quand on a un pays voisin qui est gros producteur de châtaigne comme l'Italie? Est-ce que vous en sortez pour trouver un équilibre financier grâce à des aides éventuellement institutionnelles? Et si oui, quelles sont-elles?
Alors... Nous ne travaillons pas sur le même créneau, je parle juste pour Ara Patel, parce qu'on travaille vraiment en vente directe et on transforme la totalité de notre récolte. Donc on n'a pas les mêmes contraintes et les mêmes obligations que nos collègues qui vendent en coopérative. Ceci étant dit, on a des aides évidemment financières qui sont la PAC, hein, la politique agricole commune, on en bénéficie et c'est énorme grâce à cette aide, à cette subvention, ce qu'on peut réaliser. Ça nous permet de survivre, faut pas se le cacher non plus. Mais par contre, après, les interactions européennes, il y en a très peu justement à Rapatel, puisqu'on transforme la totalité de notre récolte et qu'on la vend sur le circuit national.
Et est-ce que en termes d'investissement, est-ce que tout ce qui est matériel de production, est-ce qu'il y a des pays qui sont meilleurs en termes de propositions pour le matériel qui permet de transformer vos denrées?
Oui, tout à fait. Tout ce qui va être matériel pour la transformation de nos châtaignes, on l'a trouvé en Italie. Justement, d'où l'augmentation importante de la production italienne. Donc, par exemple, notre machine à pâte, notre cuiseur, tout ça, ce sont des produits qui viennent d'Italie et qu'on a achetés directement là-bas.
Est-ce qu'une des autres solutions, c'est de diversifier les activités? J'ai vu que vous faisiez de l'accueil de groupes scolaires, par exemple. Est-ce que c'est ça qui vous permet de garder quand même l'équilibre financier, même quand il y a des mauvaises récoltes, par exemple?
Oui, l'objectif, c'est que les gens viennent nous rencontrer et viennent nous voir à Rapatel directement.
Ok, dernière question, c'était sur la réglementation. Est-ce que vous suivez les réglementations européennes ou plutôt les réglementations françaises?
Alors, le cahier des charges bio, par exemple, français, est plus strict que le cahier des charges qu'on peut trouver dans d'autres pays. Donc, évidemment, on va se focaliser sur le cahier des charges français.
Eh bien, merci d'avoir répondu à mes questions.
Avec plaisir.
Et merci à vous, Élodie Bourriaud, journaliste en formation à l'ESJ Pro de Montpellier. L'Europe vue d'ici, à réécouter sur francebleu.fr.
L'Europe vue d'ici.